Frères et sœurs, bonjour. C'est un grand bonheur pour moi de vivre ces moments avec vous, de revoir des visages connus et d'en découvrir de nouveaux. Moi, plus je voyage, plus j'observe que la plus belle des choses qui nous reste sur la planète Terre, c'est l'Église que Jésus bâtit. Amen. Merci Daniel pour ces paroles de bienvenue. Ça me fait chaud au cœur de me retrouver dans cette bonne ville de Grenoble. J'observe avec bonheur aussi que la vision, elle est bien transmise. J'observe que la nouvelle génération a pris la balle au bon et ça fait chaud au cœur. Dans mon ministère itinérant, j'ai observé que dans nos milieux évangéliques, on a souvent du mal à avoir une vision globale des réalités. J'observe que Jésus n'a pas seulement prêché l'évangile du royaume, mais il a également pratiqué ce que j'appellerais une éthique citoyenne. Il a recherché le bien de la société, de la communauté dans laquelle il a évolué. Il a fait des miracles, des guérisons, il a répondu aux besoins des hommes, des femmes de sa génération. Il y a une thématique qui m'a interpellé ces dernières années. J'étais en contact avec une mission internationale qui s'appelait Jan's Team, qui est devenue Teach Beyond, enseigner au-delà. Et la préoccupation, c'est de répondre aux besoins de la personne, esprit, âme et corps. On a souvent, je l'ai dit, une vision assez étriquée. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai observé en tant que pasteur, une des difficultés, c'est d'aider nos paroissiens à comprendre que la Seigneurie de Jésus, ça doit concerner chaque domaine de la vie de tous les jours. Saint Augustin disait bien, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Il faut le dire, les chrétiens évangéliques brillent par leur absence dans de nombreux domaines. Je me souviens, il y a une trentaine d'années, quand on parlait de l'art dans nos églises, on disait, mais ça, c'est le monde. Nous, c'est l'Église, nous sommes des chrétiens. Et on a laissé plusieurs champs dans la société envahis par des idéologies séculières, humanistes, relativistes, qui ont complètement zappé et rayé Dieu de la carte. Et j'aimerais réfléchir avec vous ce matin sur une mission importante, encourager les parents dans leur mission éducative. On va le dire, les parents sont les premiers et les derniers à avoir le premier et le dernier mot dans l'éducation de leurs enfants. Mais la tâche éducative, elle est encore plus globale que cela. Nous allons y venir. Et je vous invite à ouvrir dans vos Bibles avec moi. J'aimerais faire une lecture dans le Deutéronome. Je voudrais lire dans Deutéronome au chapitre 6e. Et je vais lire les versets 4 à 9 dans la version Bible du Semeur. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Et puis un peu plus loin, au verset 20, Deutéronome 6, verset 20, « Lorsque plus tard vos fils vous demanderont de quel droit l'Éternel, notre Dieu, vous a-t-il imposé ses ordonnances, ses lois et ses décrets ? Vous leur répondrez, « Nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et de grands prodiges pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et de tous ceux de son entourage. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner le pays qu'il avait promis par serment à nos ancêtres. Jusqu'ici, cette première lecture de la parole de Dieu, nous en ferons une un petit peu plus tard, un petit peu plus loin. Frères et sœurs, je voudrais voir trois choses avec vous. D'abord, que la famille, c'est le lieu par excellence de transmission des valeurs du royaume de Dieu. En second lieu, je voudrais souligner le besoin de modèles à imiter, à reproduire. Et en troisième lieu, j'aimerais définir rapidement en quoi consiste la mission parentale, la feuille de route pour les parents. Autrefois, on disait que les parents avaient beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui ont beaucoup de parents. La donne a complètement changé. Dans les années 1990, Evelyne Sullerot, la grande sociologue de la famille, disait qu'autrefois, une famille, c'était des individus qui étaient réunis sous le même toit par les liens du sang et de la loi. Aujourd'hui, sous le même toit, cohabitent des personnes venant de familles différentes. Il n'y a pas toujours un lien de sang et encore moins un lien juridique. En 1947, il y a un sociologue et un historien suisse du nom de Karl Zimmermann qui a étudié les civilisations qui nous ont précédés. Il a tenté de discerner des facteurs qui ont provoqué le déclin des cultures et des civilisations qui nous ont précédés. Et dans son ouvrage publié en 1947, Karl Zimmermann a relevé 6 facteurs qu'il a observés, qu'il a discernés comme ayant précipité le déclin d'une culture. Le premier facteur, c'est la banalisation et la généralisation du divorce. Deuxième facteur, le mépris de la maternité. Mettre des enfants dans ce monde, ce n'est pas très porteur. En troisième lieu, l'élimination de la signification de la cérémonie du mariage. En quatrième facteur, la suppression des inhibitions en rapport avec l'adultère. Je rappelle qu'en France, c'est seulement au début des années 1970 que l'adultère ne figure plus comme délit dans le code pénal. Le cinquième facteur qu'il a observé, c'est la croissance de la délinquance juvénile, la jeunesse qui va à la dérive. Et le sixième et dernier facteur qu'il a observé, c'est la généralisation de toutes sortes de perversions sexuelles. En regardant dans le rétroviseur, voilà ce que cet historien, ce sociologue, a observé. Qu'en est-il de notre génération ? Vous connaissez cet adage anglo-saxon qui dit, je l'adapte, « Semez une pensée, vous récolterez une action. Répétez cette action, vous en faites une habitude. Pratiquez cette habitude, vous vous forgez un caractère. Vivez votre caractère, vous déterminez votre destinée. » Je suis conscient que la thématique de la mission parentale et de la vie de famille, c'est un sujet sensible. Et détendez-vous sur votre chaise, je ne viens pas en donneur de leçons. Je pense que nous avons besoin de nous encourager les uns les autres dans cette mission. Nous ramons à contre-courant sur toute la ligne. Nous sommes une minorité à penser ce que nous pensons. Bien sûr, du point de vue de Dieu, nous comptons, mais nous n'avons pas que des amis autour de nous. D'ailleurs, les récits bibliques qui relatent l'histoire des familles qui nous ont précédés attestent que l'histoire de ces familles n'ont pas été des familles sans histoire. Pensez à Abraham, qui a connu une mémorable scène de ménage avec Sarah quand il a fallu renvoyer Ismaël. On n'a pas d'enregistrement audio de l'époque, mais je crois que ça devait jaser dans la chaumière. Ce n'était pas une chaumière, c'était une tente. Pas plus le foyer de Isaac que de Jacob n'ont été exemplaires dans le sens que chaque parent avait son enfant préféré. Bonjour l'ambiance, ou plutôt au revoir l'ambiance et bonjour la jalousie et des zones de turbulence dans l'atmosphère de famille. On pourrait mentionner encore Moïse, qui s'est fait traiter d'époux de sang par son épouse Séphora quand il a fallu circoncire leur enfant premier-né, Guershom. On pourrait mentionner encore le sacrificateur, non pas le prophète, le sacrificateur Élie, qui, lui, n'était pas un modèle à suivre. Il était le dernier informé à savoir ce qui se passait avec ses enfants. Là, manifestement, l'aiguille est dans le rouge. À l'opposé, le prophète Samuel a dû verser bien des larmes sur ces deux garçons qui ne l'ont pas suivi dans ses voies. Et enfin, on pourrait compléter le tableau en disant un mot sur Adonijah, un des fils du roi David. L'Écriture nous dit, dans 1 Roi 1:6, que David n'avait jamais osé dire un mot de reproche à son fils Adonijah, qui ne s'est pas privé de lui rendre la monnaie de la pièce, puisqu'il a voulu comploter et prendre le pouvoir. La famille, un lieu de transmission. La famille, un centre d'éducation prioritaire. Nous avons lu le Deutéronome. C'est vraiment la pierre d'angle de tout le système éducatif qu'on trouve encore dans le judaïsme contemporain. Le verset 5 dans Deutéronome 6 que nous avons lu nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Ce qui est remarquable, c'est qu'en théologie, on parle du thème de l'intériorité. Déjà dans l'Ancien Testament, on se soucie, et les prophètes l'ont rappelé à de multiples reprises, de la motivation, de l'attitude intérieure, et pas seulement de l'accomplissement des rites extérieurs. L'Ancien Testament mettait déjà l'accent sur l'importance de la motivation. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est remarquable. Cet amour implique un engagement total de l'homme, de la personne. Dans l'Écriture, le cœur, c'est le siège du quartier général de la personne. C'est le siège des facultés mentales et intellectuelles. C'est le siège des émotions, de la vie affective. C'est le siège de la volonté. Et c'est encore le siège de la conscience. De sorte que, quand on dit dans notre jargon « donner son cœur à Jésus », c'est véritablement lui reconnaître les pleins pouvoirs. Le verset 6 dit que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Le Deutéronome insistait déjà sur l'intériorisation de la loi divine, non pas simplement écrite sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, le cœur, l'intérieur. Le verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » On voit le souci de la transmission de génération en génération. Et une des grandes missions et un des grands défis des parents aujourd'hui, c'est de transmettre un capital qui n'est pas coté en bourse, mais qui vaut mieux que tout l'or en barre de la planète. L'importance de l'enseignement de la loi dans la famille est soulignée dans ce texte, où l'on voit que l'enseignement familial ne se limite pas à la transmission d'un contenu de foi ou d'un savoir. Moïse recommande une pédagogie en situation, au fil de la vie, au fil des activités, de façon naturelle, en tout lieu, chez soi comme à l'extérieur, et à tout moment, au coucher, comme au lever. En Occident, on pense que le savoir se transmet, le savoir académique que l'on prône, et on a l'héritage des philosophes dont on est tributaire. Mais on pense que l'éducation, c'est uniquement transmettre des données, un savoir, des informations d'une certaine qualité académique. Mais nous, en Occident, et nous les Latins, on pêche par le manque de vision globale, parce que cela doit être incarné. Et j'observe que c'est dans le cours normal et naturel du quotidien. Le verset 8 précise qu'il soit attaché comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. le judaïsme a pris au pied de la lettre ces recommandations. Mais on voit que Moïse invite à faire des commandements l'environnement dans lequel les parents et les enfants vont vivre. L'enfant doit être immergé dans la loi. Elle doit être omniprésente, toujours en vue, à portée de main. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du bourrage de crâne. C'est par la fréquentation assidue de la loi divine qu'on s'en imprègne, qu'on l'assimile et qu'elle finit par devenir partie de soi. À tel point qu'on ne peut plus penser ni agir sans y faire référence. Et je l'ai dit, le judaïsme a pris ses versets au pied de la lettre, en les fameux téphilines ou les phylactères, ces petites boîtes en cuir qui contiennent certains versets de la Torah, ou ce qu'ils mettent sur leur bras gauche lors de la prière quotidienne, ou les mezouzas qu'ils fixent sur les battants, le montant des portes d'entrée. Alors moi, ce qui m'impressionne dans cette conception juive de l'éducation, c'est d'abord le fait que la visée, l'objectif, c'est d'amener l'enfant à aimer l'Éternel de tout son cœur. Et je pense qu'en tant que parents, notre première mission, c'est de donner envie à nos enfants d'aimer Dieu. Et la question, elle est posée. Quelle image de Dieu est-ce que j'incarne et est-ce que je communique? Est-ce que je leur donne envie d'aimer Jésus et de le servir? J'observe que la transmission de ce capital n'est pas limitée à certains moments de la journée, mais elle s'inscrit dans le cadre de la vie de tous les jours. C'est naturel. Elle ne dissocie nullement la doctrine de la vie pratique. Elle ne dissocie nullement la pensée de l'action ou le domaine spirituel du domaine matériel au quotidien. La transmission de ce capital exige plus que l'enseignement des valeurs, mais leur incarnation. Elle n'est pas tant une question de parole que d'action. Et elle exige bien sûr une cohérence entre les valeurs transmises et le style de vie de celui qui entend transmettre. Où l'on observe également que la transmission de ce capital s'incarne et se réalise au travers des relations interpersonnelles. Et la conception de l'éducation dans l'Écriture, elle est indépendante de la qualité, elle est dépendante de la qualité de la relation et de mon rapport à autrui. Je l'ai dit, ce qui frappe dans la conception juive de l'éducation, c'est l'absence de dualisme ou d'opposition artificielle entre le sacré d'un côté et le profane de l'autre, entre la vie spirituelle d'un côté et la vie matérielle de l'autre. Et là, il faut le dire, en Occident, nous avons, et nous ne sommes pas encore affranchis, de l'influence des philosophes grecs du IVe siècle. Platon enseignait que le corps est un tombeau pour l'âme, et ce qui était important, c'est l'esprit. Au premier siècle de notre ère, dans l'Église primitive, il y avait déjà la mauvaise herbe de ce qu'on appelait le gnosticisme. Et certains allaient jusqu'à enseigner que, ben, ma foi, le péché du corps n'affecte nullement l'esprit ou l'âme, puisque les deux sont opposés et complètement dissociés. Et on peut dire que toute la théologie du Moyen-Âge a encore été influencée profondément par ce dualisme qui nous amène encore aujourd'hui à mettre d'un côté notre âme, le domaine spirituel, la rédemption, la foi, la piété, tout ce qui touche à ma relation avec Dieu, la vie d'église, nos activités chrétiennes. Et là, on se dit, dans ce domaine-là, Dieu a son mot à dire. Et de l'autre côté, il y a une autre colonne, c'est le corps, le monde profane, la vie matérielle, la vie de couple, la vie de famille, la vie sociale, la vie professionnelle, les loisirs, où là, Dieu n'a plus son mot à dire. Et moi, je me souviens, quand j'ai eu charge d'église, là où je m'arrachais les cheveux, c'était d'essayer de faire comprendre que la Seigneurie de Jésus, elle concerne chaque aspect de la vie de tous les jours. Et ce dualisme, cette dichotomie, cette opposition, elle n'est pas biblique. Et elle porte à de graves conséquences. Parce qu'au final, nous trouvons dans nos églises évangéliquement correctes des paroissiens qui pensent que Dieu s'intéresse à mon âme, mon esprit, ma relation avec lui. Et ils ont une vision très saucissonnée, cloisonnée du quotidien. Il y a le tiroir église le dimanche, et puis l'église terminée, on ferme le tiroir, puis après c'est la vraie vie, mais là Dieu n'a pas son mot à dire. Tout à l'heure je parlais de Jésus, qui ne s'est pas contenté de prêcher l'évangile du salut, mais l'évangile du royaume, il incluait la nécessité de répondre aux besoins de l'être, esprit, âme et corps. Notre conception de l'éducation, elle reste encore scolaire, académique. Je suis impressionné d'observer qu'au XVIe siècle, lors de la Réforme, les réformateurs avaient une vision globale de la personne, esprit, âme et corps. Le défi, c'était d'entretenir la relation personnelle avec Dieu et aussi c'était, d'apporter un certain niveau, une certaine qualité au plan académique. Les réformateurs avaient donné comme feuille de route aux pasteurs de faire deux choses. Un, implanter des églises pour annoncer la parole de Dieu. Et deux, ouvrir des écoles. Martin Luther disait « Je plains les familles qui envoient leurs enfants dans des établissements où on ne leur enseigne pas la crainte de Dieu. » Moi, je suis impressionné d'observer que les réformateurs avaient cette vision globale de la personne. On parlait de la piété lettrée. La piété lettrée ne vous donne pas à choisir entre d'un côté le piétisme et de l'autre côté l'académisme. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Calvin disait de Genève, « Envoyez-nous du bois, on va vous renvoyer des flèches. » Et Calvin, par cette image, voulait dire, « Eh bien, nous voulons former des hommes et des femmes de Dieu, au plan spirituel et au plan académique. » Je suis sidéré de lire dans les statuts des grandes universités américaines. Yale, Princeton, Harvard. Dans les statuts des pères fondateurs, il est écrit noir sur blanc. Le but de l'éducation, c'est d'apprendre à connaître Dieu et à connaître Jésus-Christ. Il y a un an, à pareille époque, je me trouvais à Kinshasa. J'avais été invité à donner la leçon d'ouverture de l'année académique 2013-2014. Et dans cette université de Kinshasa, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu en France. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un recteur d'université prendre position, entonner un chant chrétien et donner un témoignage de vie personnelle avec Dieu devant ses étudiants de médecine et de sciences économiques. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh ! En France, on est peut-être dans le G8, mais on est à l'âge de pierre dans bien d'autres domaines. » Et moi, personnellement, je me sens interpellé par cette question de l'éducation. Je pense que c'est certainement un des domaines que les chrétiens évangéliques ont complètement zappé. On oublie que la première université en Europe, elle était à Paris, 15e siècle. Elle était promue par des hommes qui avaient une foi profondément évangélique. On a zappé le monde de l'éducation et on a laissé les idéologies séculières, humanistes, relativistes occuper toute la place. On a oublié que des grands pédagogues comme Comenius au XVe siècle étaient des hommes qui ont influencé les sciences de l'éducation, qui étaient des hommes animés d'une profonde foi évangélique, qui avaient des convictions comparables aux nôtres. J'ai entendu le témoignage il y a deux jours d'un président d'une fédération de parents d'élèves au niveau départemental, et il m'a dit « J'étais président d'une fédération pendant 6 ans, j'ai ferraillé dur, j'ai bataillé, Mais j'ai bien compris que nos valeurs chrétiennes, elles n'intéressent personne. Nous sommes une minorité à les porter et à les défendre. Je ne suis pas en train de dire que l'école privée, c'est la réponse à tous les problèmes. Et moi, personnellement, je ne suis pas prêt à signer pour n'importe quelle école privée, une école chrétienne. En tout cas, on observe aujourd'hui en France que même des familles non chrétiennes, n'ayant aucune référence religieuse ou avec l'Église, se posent de sérieuses questions. Et on observe une demande croissante, frappant à la porte des institutions privées qui ne peuvent pas répondre à la demande, et une tendance à pratiquer ce qu'on appelle le homeschooling, l'école à la maison. En tout cas, je pense que cette thématique, moi, elle m'interpelle, l'incarnation des valeurs chrétiennes dans le domaine de l'éducation. Mais évidemment, les parents, la famille chrétienne restent le premier. Les parents chrétiens doivent avoir le premier et le dernier mot dans la transmission des valeurs à leurs enfants. C'est un chantier qu'en aucune façon, nous ne devons nous permettre de sous-traiter et de confier cette mission à quelqu'un d'autre. Parce que les parents chrétiens sont les premiers responsables. Alors, on a lu à la fin du Deutéronome 6, les versets 20 à 25, lorsque plus tard vos fils vous demanderont « De quel droit l'Éternel, notre Dieu, vous a-t-il imposé ses ordonnances, ses lois et ses décrets ?» Verset 21, vous leur répondrez « Nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. » 22, il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et de grands prodiges pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et de tous ceux de son entourage. Verset 23, mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner le pays qu'il avait promis par serment à nos ancêtres. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'entre les parents et les enfants, il y a de la communication. Et l'enfant pose la question, mais de quel droit devons-nous adopter vos valeurs ? Voilà la question que les enfants posent à leurs parents. Elle est légitime. Les parents ne disent pas « Ah ben mon fils, c'est parce qu'on a toujours fait comme ça et on continuera à le faire comme ça. » Non. Les parents disent « Fiston, c'est une bonne question que tu poses. Il faut que tu saches qu'on était esclaves en Égypte et l'Éternel est intervenu à main forte et à bras étendus. Et il a fait le miracle, il nous a fait sortir de l'esclavage en Égypte. Et il nous a fait entrer en terre promise. Cette génération, elle avait un témoignage personnel à rendre. Nous, les parents chrétiens, aujourd'hui, on vit dans un monde où Dieu n'est pas le bienvenu. C'est un euphémisme. Dieu, Jésus-Christ, son persona non grata. Aujourd'hui, on vit comme si Jésus-Christ n'a rien fait à la croix du calvaire. Nous savons tous que ce qui influence le plus nos ados, ce n'est plus ce que disent les parents. Ça ne veut pas dire que les parents ne doivent plus rien dire. Nous savons tous que ce sont les médias et la pression des copains qui les influencent. Cette parole du Deutéronome nous renvoie à nos responsabilités. En tant que parents chrétiens, nous avons un témoignage personnel à incarner et à transmettre. Avant de connaître Jésus, moi j'étais esclave de mes vices, de mes passions, et de mes hormones. Je ne savais pas distinguer le bien du mal. J'ai rencontré Jésus. J'ai été purifié par le sang de Jésus. J'ai été restauré. Et ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Cela m'amène à mon deuxième point, le besoin de modèle. Une des grandes questions auxquelles nos adolescents doivent trouver une réponse, c'est la question de la conformité. À qui est-ce que moi je veux ressembler ? De quel modèle je veux m'inspirer ? Et à qui est-ce que je cherche à ressembler ? Nous savons tous que la concurrence, elle est rude. Et malheureusement, il y a bien plus de contre-exemples et de mauvais modèles à surtout ne pas imiter que de bons modèles. En théologie, on appelle ça la théologie de l'imitation. C'est impressionnant de voir comment Jésus a imité son Père. Dans Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Jésus imite son Père. Ce que son Père a fait avec lui, Jésus le fait avec ses disciples. Jean 17, 18, « Tu m'as envoyé dans le monde, de la même façon, je les envoie dans le monde. » Nous sommes à notre tour invités à imiter Jésus. Il y a de nombreuses exhortations dans ce sens. Je cite une des plus connues dans Jean 13, 34, 35, où Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » Nous avons besoin de modèles à imiter. Dans 1 Corinthiens 11, 1, Paul dit « Frères, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis du Christ. » La barre, elle est haute. Et quand Paul écrit aux Thessaloniciens, c'est formidable, il leur dit « Bonne nouvelle, l'imitateur, qui ne se trompe pas de modèle, devient un modèle à son tour à imiter. » Dans 1 Thessaloniciens 1, versets 6 et 7, Paul dit aux Thessaloniciens « Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, avec la joie que produit le Saint-Esprit. » Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. D'imitateurs qu'ils étaient, ils sont devenus des modèles à imiter. Dans la mesure où je deviens une copie toujours plus conforme à l'original, je dirais, je suis crédible pour incarner un modèle à suivre. Et les prophètes montreront que l'être humain finit par ressembler au Dieu, ou au vrai Dieu ou au faux Dieu qu'il vénère et qu'il adore. Si on adore des idoles, on est complètement à côté de la plaque. Je voudrais rapidement avancer et en venir à mon troisième point, le rôle et la mission des parents, pour être un peu plus concret, un peu plus pratique. Et là, je voudrais faire une autre lecture dans 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Et vous allez remarquer au passage comment Paul utilise la métaphore de la mère et du père. Et il fait un commentaire très intéressant sur en quoi consiste le rôle de la mère, en quoi consiste le rôle du père. Il écrit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 7, et voilà ce que dit Paul, « Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. » Un mot déjà sur le rôle et la contribution d'une maman. Alors, le livre des Proverbes dit bien, « Mon fils, écoute l'enseignement de ton père et n'oublie pas l'instruction de ta mère. » Il est bien évident que dans la mission éducative, il y a le papa et il y a la maman. J'allais dire, c'est comme nos deux yeux qui permettent d'avoir une vision plus objective et réaliste du monde extérieur. Et il faut le point de vue masculin et le point de vue féminin dans l'éducation. Une maman, bibliquement parlant, elle incarne le sens maternel, même si ça, c'est devenu un gros mot dans notre société, dans notre culture occidentale. La chaleur, la douceur, la tendresse, l'affection, ce sont des vertus traditionnellement féminines qui communiquent un sentiment d'apaisement, de sécurité, de bien-être. En second lieu, on peut dire qu'une maman, en général, bien sûr qu'il y a des exceptions, comme toutes les règles ont des exceptions, une maman, en général, elle fait preuve de souplesse et de flexibilité. Généralement, une maman est beaucoup plus accommodante, moins rigide qu'un père. Mais enfin, ne prenez pas rendez-vous chez le psychiatre si ce n'est pas le cas chez vous. Vous êtes normaux et nos problèmes. Et une maman, elle incarne le courage, la vaillance, l'endurance. Paul dit, comme une maman qui était prête à donner sa vie pour sa progéniture, nous étions prêts à nous livrer pour vous, pour votre bien. Une maman est prête à consentir au plus gros sacrifice. Elle aime sans compter, sans attendre de retour. Quand elle fait les tâches ménagères, c'est là où on voit la différence avec un homme. En général, les hommes, quand ils font une tâche ménagère, ils le mettent sur leur blog, hein, sur Internet. Et comme ça, tout le monde le sait. Une maman, en général, elle a un amour sacrificiel, profondément désintéressé et prête à se sacrifier pour le bien de son enfant. Et je trouve que c'est significatif que l'apôtre Paul, dans le soin pastoral qu'il prodiguait à l'endroit des Thessaloniciens, use de cette métaphore maternelle. Alors, un peu plus loin, il va utiliser la métaphore paternelle. Et là, la feuille de route, elle est tracée. Verset 10, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 10. « Vous en êtes témoins, et Dieu aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière pure, juste et irréprochable. » Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. Verset 12. Nous n'avons cessé de vous transmettre, la transmission, de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Quelle feuille de route. Et moi, je pense que ça, pour les groupes de maison, il y a du grain à moudre, discuter sur ces versets, c'est quoi un papa, c'est quoi une maman, à quoi ça sert, quelle est la mission de l'un, quelle est la mission de l'autre. Ricardo, tout à l'heure, a lu certains textes qui parlent de Dieu, et le mot clé qui caractérise Dieu, c'est le mot amour. Et Dieu incarne le modèle de la paternité par excellence. L'image que Dieu donne à contempler, à observer et à reproduire du Père, un Père, c'est quelqu'un qui aime. Et il y a de très nombreux textes qui caractérisent la personne de Dieu comme étant le Dieu qui aime. Cela a été rappelé et on l'a signifié en partageant les éléments de la scène. Je reviens à Evelyne Sullerot qui, pour elle, les grandes fonctions du Père, un, c'est une fonction identitaire. Le Père doit conférer à l'enfant le sens de son identité personnelle. En second lieu, le Père a une fonction éducative dont il doit conserver la maîtrise. On a dit que ce n'est pas un chantier à sous-traiter, à déléguer. En troisième lieu, le Père a une fonction de transmission. Il a charge de communiquer, de transmettre une culture de famille à la nouvelle génération. Et puis, le père, il a une fonction de solidarité active. Autrement dit, si l'enfant, l'ado, l'adulte, il a besoin d'aide au quotidien, le père, les parents doivent répondre présents. Et l'histoire du fils prodigue nous montre qu'on devrait plutôt appeler dans Luc 15 la parabole du père rempli d'amour. Un père, c'est quelqu'un qui aime, même quand le fiston a fait tout ce qu'il fallait faire pour ne plus être l'objet de cet amour. Parce que nous le savons bien, l'amour de Dieu dépend non pas de l'objet des enfants, du fils, mais il dépend du caractère même de Dieu, parce que la nature de Dieu, c'est aimer. Et on peut dire que la feuille de route du père, en premier lieu, c'est aimer. Aimer son conjoint, aimer ses enfants. C'est également créer du lien pour créer un sentiment d'appartenance à une famille. L'enfant, l'ado, il a besoin de savoir qu'il appartient à une tribu qu'on appelle la famille. Et ce sentiment d'appartenance, il est fondamental. Le père a pour mission d'équiper et de former, bien sûr, à l'aide de son copilote, a pour mission d'équiper et de former ses enfants pour les préparer à affronter les défis de la vie. Et puis, dans un avion, il faut au moins un pilote, hein, et souvent assisté d'un copilote, le père doit donner une direction. Moi, je dirais, grosso modo, la triple mission parentale du papa et de la maman. Un, le premier chantier à développer dans la famille, c'est la qualité des relations interpersonnelles. Si dans la famille, on n'apprend pas à établir des relations personnelles adaptées, significatives, où est-ce qu'on va apprendre ? Moi, je pense que les parents chrétiens qui enseignent à leurs enfants les petits mots qui peuvent faire des miracles dans la vie de tous les jours, investissent dans leur future vie de couple. Merci. Pardon, j'ai eu tort. Je te pardonne. Ces petits mots qui peuvent même éviter à la sécurité sociale de s'enfoncer encore plus dans le déficit. Le premier chantier dans la famille, c'est d'apprendre à établir des relations personnelles, les uns avec les autres, significatives, avec des gens que je n'ai pas choisis. C'est un bon apprentissage pour la vie. Et déjà même, je crois savoir que quand on choisit son conjoint pour la vie, on a besoin de la grâce de Dieu. Mais là, on ne peut pas appeler le service après-vente parce qu'on a signé bon pour accord et on est responsable. Le deuxième domaine, le deuxième chantier qui doit être ouvert dans la vie de famille, après le champ des relations, c'est celui de la communication. Apprendre à communiquer d'une façon respectueuse et positive. James Dobson, un psychologue chrétien, avait fait une étude, je crois que c'était fin des années 80, en Amérique du Nord. Et pourtant, en Amérique du Nord, Dieu sait si... Je ne sais pas s'il y a des magasins Carrefour là-bas, mais on positive beaucoup plus là-bas que chez nous. Hein. Et Dobson avait fait remarquer que dans les familles chrétiennes, 80% de la communication, c'est dans le registre du négatif, des reproches, des critiques, des remontrances. Et il disait, il y a seulement 20% de paroles valorisantes, d'encouragement, et il dit, on devrait inverser le ratio. Il est bien évident que nos enfants, nos adolescents, s'ils n'ont pas reçu des paroles valorisantes dans la famille, je ne pense pas que ce soit auprès de leurs copains, et encore moins sur Internet, qu'ils vont recevoir ce dont ils ont besoin. C'est intéressant de constater que Jésus lui-même, tout au début de son ministère, une voix s'est fait entendre, « Celui-ci est mon fils ». Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qui saura dire le pouvoir de motivation d'une parole de bénédiction ? On pourrait dire, dans le registre opposé, qui saura dire le pouvoir de destruction d'une parole humiliante, blessante et invalidante. Donc, le premier chantier, c'est les relations. Le deuxième, je suggère, c'est la communication. Et le troisième chantier dans la vie de famille, ça doit être celui de la formation. Et une formation personnalisée, adaptée. Nous qui avons plusieurs enfants, nous savons tous que c'est du sur-mesure. Et le Seigneur ne travaille pas à la chaîne avec nous. Je termine. Il nous est dit de Jésus dans Luc 2, 40, que le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et le verset 52 nous dit « Jésus croissait en sagesse ». En stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et j'observe qu'on a toute la panoplie dans chaque domaine, dans chaque aspect. Je veux terminer en vous encourageant. Je suis conscient que quand on parle de cette thématique, il y a un côté culpabilisant. La barre, elle est haute. Moi, je crois qu'on a besoin, et je suis conscient qu'il ne suffit plus d'appliquer les bonnes formules pour que le résultat soit garanti au bout du compte. Nous savons tous que dans des familles chrétiennes, le même enseignement chrétien et le même exemple, le même modèle, même si personne n'a 10 sur 10 dans toutes les matières, nous sommes bien d'accord, il n'existe pas de parents parfaits, tout comme il n'existe pas d'enfants parfaits. Mais nous constatons que, parfois, dans une même famille chrétienne, le même enseignement, le même modèle transmis ne donnera pas lieu au même résultat. Un enfant va filer tout droit et un autre va complètement bifurquer à droite ou à gauche. Moi, je veux encourager les parents chrétiens qui traversent cette épreuve. Il y a un besoin, je dirais, de lâcher prise. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est un fardeau qui est lourd à porter. Dieu soit béni, tant qu'on peut prier, il y a encore de l'espoir. Le métier des parents, je crois savoir, c'est d'aimer. Quoi que deviennent et quoi que fassent nos enfants. Le devoir des parents, c'est d'espérer. Le devoir des parents, c'est de prier. Le pire qui peut arriver, me semble-t-il, c'est de baisser les bras et de dire « Je lâche l'affaire, j'arrête tout. » Et nous devons même être prêts d'accepter que Dieu puisse utiliser d'autres personnes pour faire auprès de nos enfants quelque chose que nous ne pourrons pas faire.